19h04, c'est le moment de parler avec Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Écoute, la Coupe du Monde, c'est gigantesque. Aujourd'hui, on a vu l'Allemagne qui a perdu. Ça fait branler la planète soccer. Mais il y a de la pression pour les joueurs, mais que dire de la pression sur les officiels, les arbitres? C'est pas facile.
C'est pas facile. Tous les yeux sont rivés sur lui, sur l'arbitre du match. Et c'est une pression qui est absolument démentielle. Les enjeux sont tellement considérables. Regarde ce qui s'est produit aujourd'hui dans le match Allemagne-Corée du Sud. On est dans les arrêts de jeu. Et là, la Corée du Sud marque un but. Et l'officiel, sur les lignes de côté, signale un hors-jeu. Alors là, l'arbitre en chef du match décide d'aller voir la reprise, renverse la décision et accorde le but. Alors là, toute la pression est sur lui et c'est lui qui rend la décision. On n'en réfère pas à Toronto comme dans la Ligue nationale de hockey ou à New York comme au baseball. La décision est prise sur le champ. Puis moi, Jérémy, ce qui m'impressionne, c'est drôle, aujourd'hui, j'ai vu ça passer sur Twitter. C'est un journaliste de CBS Sports qui a écrit ça, puis j'ai trouvé ça tellement vrai ce qu'il a dit. Il a dit « la rapidité avec laquelle les officiels dans la Coupe du Monde rendent leur décision après être allés consulter la reprise vidéo est exceptionnelle. Toutes les autres ligues professionnelles devraient prendre exemple là-dessus. » Et c'est tellement vrai. Encore aujourd'hui, là, la décision, là, ça a pris comme moins d'une minute. L'arbitre est allé, il a regardé la vidéo, il a dit « il n'y en avait pas d'hors-jeu, je donne le but » et la décision a été prise rapidement. L'arbitre a le pouvoir, il n'a pas besoin d'en référer à des instances supérieures qui regardent le jeu sous 22 angles différents et je pense que ça fait du bien.
Exactement. Mais tu sais, au baseball et au hockey, on tombe souvent dans la micro-analyse.
Oui.
Et quand tu as plusieurs paliers qui décident, c'est là que ça devient longtemps.
Je trouve que ça vient un problème. Tu sais, tu parles du baseball, c'est vrai. Du hockey, c'est vrai. Au football, de la NFL aussi. Tout à coup, les décisions, c'est tellement long avant d'être rendu. Et on sait que des fois, c'est simplement qu'il y a un engorgement. Comme pendant la saison au baseball, si deux, trois incidents surviennent à peu près au même moment, bien, il y a une file d'attente là, avant que la décision soit rendue. Alors, c'est beaucoup trop long. On perd beaucoup trop de temps. Et peut-être que tous les sports professionnels devraient en effet prendre ça en ligne de compte parce que dans la plupart des sports, on trouve que les matchs sont trop longs. C'est certainement le cas au football où on veut essayer de ramener là, les 60 minutes de jeu dans un laps de temps plus court dans l'envergure totale. Là, souvent, les matchs, c'est 3 heures. Ça dure 3 heures et quart. Même chose au baseball. Au hockey, on sent également, là, c'est souvent très, très long. Et je pense que moi, je suis entièrement en faveur de la reprise vidéo. Il y a bien des débats là-dessus. Les gens disent non, on devrait laisser l'humain choisir. Non. Il y a de la technologie. Il faut s'en servir. Ça empêche des erreurs. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut qu'à chaque fois, ce soit aussi long et puis qu'on décortique sous 50 angles différents? Et ce que j'aime dans la Coupe du Monde, c'est que ces arbitres-là rendent la décision rapidement, malgré la pression. On dirait qu'ils ont une confiance en eux. Ils remarquent qu'ils ont le droit de prendre la décision. Là, c'est pas dans un autre bureau ailleurs que qu'on tranche et ça fait une grande différence. Mais je trouve encore une fois aujourd'hui là, l'arbitre ça lui a pris du cran pour prendre cette décision là. On a vu des exemples dans plusieurs autres matchs. Je pense notamment à Portugal, Iran un petit peu plus tôt cette semaine. Ronaldo, est-ce qu'il mérite un carton rouge? Oui, non, finalement on lui donne un carton jaune. Puis on sait que c'est pas une décision facile à prendre parce qu'après t'écoutes un panel d'experts, puis il y en a la moitié qui pense que l'arbitre aurait eu raison, il y en a la moitié qui pense que non, il y a pas eu raison. Alors, ce sont des décisions toujours très, très délicates et la pression sur eux est absolument fantastique. Puis on dirait que c'est arrivé souvent là, dans les derniers matchs qu'on arrive dans le temps ajouté, dans le temps additionnel. Puis il y a des grosses décisions à prendre. Puis ce sont des matchs qui sont significatifs, qui vont déterminer si une équipe accède à la ronde subséquente. Alors, oui, ils font des erreurs, mais franchement, je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de cran.
Bon, parlons maintenant du John Tavares Watch. Là,
ouais.
On regarde. Non, et je veux savoir, écoute, le collègue John Lou de TSN, qui est là-bas sur place, fait le pied de grue, savoir bon qui rentre, combien de temps qu'il reste là, reportage en direct. On est-tu en train de virer Saint-Denis, tu penses?
Ben, je pense qu'à Toronto, c'est certainement suivi de très près parce que c'est sûr que si John Tavares se joignait aux Maple Leafs, ça serait un intérêt extraordinaire. Alors, je pense que TSN veut suivre ça de près. Mais
donc, écoute, tu me dis que si jamais le Canadien avait été là-dedans, il y aurait
eu des collègues. Tu serais peut-être là, Jérémy.
avec John dans le parking en avant du bureau
de Pat
Brisson.
Exactement, exactement. Non, mais écoute, il y aurait une soif de savoir. Hein. Imagine si le Canadien était dans la course. Là. Tout le monde à Montréal voudrait savoir. Puis s'il y a un média qui y va, les autres vont y aller parce que tu ne veux pas être à la traîne, même si la cueillette de l'information pour l'instant est assez mince pour ceux qui sont là. Mais je pense que ça illustre aussi le phénomène dont on parlait hier. C'est que c'est assez unique là, ce qu'on est en train de voir. Je ne pense pas qu'on a vu ça dans le passé. Un joueur qui ouvre sa cour et puis là, les prétendants y vont puis ils présentent leur dossier un après l'autre. C'est quand même assez unique. Et là, par la suite, lui va faire son choix entre des propositions absolument extraordinaires. Au niveau de l'argent, ça va à peu près s'équivaloir. On sait que les Islanders ont l'occasion d'offrir une année de plus, bien sûr, en raison de la convention collective puisqu'il leur appartient déjà. Mais pour le reste, c'est d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte, que ce soit la fiscalité, la qualité de vie et bien sûr la possibilité pour l'équipe de gagner rapidement. Mais il y a plusieurs bonnes équipes dans celles qui s'intéressent à Tavares. Alors, qui peut prédire qu'il va gagner la Coupe? San Jose peut la gagner. Toronto peut certainement la gagner. Alors, tu sais, il a quand même l'embarras du choix. Mais on a réussi dans la Ligue nationale avec l'ouverture de cette fenêtre-là additionnelle avant le 1er juillet où les équipes peuvent rencontrer de façon très officielle les joueurs à générer encore un intérêt exceptionnel. Et c'est ça un peu le succès de la Ligue. À la limite, c'est peut-être un peu trop, mais les premiers qui ont fait ça, Jérémy, c'est la Ligue nationale de football, qui a réussi à créer une saison qui dure 12 mois. Les matchs ont uniquement lieu du mois de septembre au mois de début février avec le Super Bowl, mais l'action n'arrête jamais, parce qu'après le Super Bowl, ben c'est le début officiel de la saison suivante où les alignements, tous les joueurs sous contrat, bon, on revoit ça, les transactions commencent, la période des joueurs autonomes, le repêchage. Tu sais, il y a beaucoup d'actions, puis après ça, le pré-camp d'entraînement, puis le camp d'entraînement, puis les matchs pré-saison. Ça n'arrête jamais. Et le hockey est rendu comme ça. Mm-hmm. Le hockey, auparavant, là, quand les séries éliminatoires étaient terminées, bon, ben là, il y avait le repêchage, puis ça s'arrêtait à peu près là. On se revoyait plus tard. Puis souvent, souviens-toi, au début des années 80, les gros échanges, c'était pas nécessairement au mois de juin ou de fin juin, début juillet, comme on voit maintenant, surtout fin juin. On envoyait beaucoup au mois de septembre. Un des plus gros échanges que le Canadien a réalisé au début des années 80, le fameux échange de Rod Langway, là, qui a amené notamment Ryan Walter de Washington à Montréal. Ça a été réalisé au mois de septembre. Il y avait beaucoup d'échanges à ce moment-là. C'est comme si la saison reprenait, puis là, les équipes se remettaient en branle. Mais tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, la période là, où on parle peu de hockey, elle est vraiment très peu longue. Moi, je l'estime à peu près 3-4 semaines, là, entre le 8-9 juillet, puis jusqu'à peu près la première d'août, puis là, ça repart avec les joueurs qui commencent à s'entraîner dans les différents arénas, puis ils commencent à avoir des reportages, puis on commence à évaluer les chances pour le camp d'entraînement, puis là, c'est le tournoi de golf, puis là, c'est parti. Alors, pour revenir à ta question, est-ce qu'on est rendu fou? Oui, un peu, mais c'est pas d'hier. ça fait un bout que le hockey occupe beaucoup de place. Puis je pense qu'il y a un autre phénomène aussi qui explique ça, c'est l'espèce de monopole dont jouit le hockey maintenant, et je pense notamment au Québec. À l'époque, t'avais les expos. Puis les expos, tu sais, c'est sûr que ça mal finit. Puis il y a ben beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont dire, ben oui, mais les expos, tu sais, à la fin, c'était terrible, puis il n'y a plus personne qui en parlait, puis c'était pathétique. Et c'est vrai. Mais ça n'a pas toujours été comme ça.
Ben non.
Dans les années 80, puis dans les années 90, jusqu'au milieu des années 90, ça marchait très fort. Puis je regarde aujourd'hui les vieilles éditions de la presse ou de d'autres journaux, puis les expos, là, c'est couvert à abondamment, puis c'est des pages, puis le coach à tous les jours, puis qui va jouer, tu sais, tel joueur est blessé, qui va le remplacer et tout. Il y a plein d'articles, il y a des analyses. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus d'expo. Alors là, c'est le hockey, c'est le Canadien qui prend toute la place, puis il y a encore moins de diversité parce qu'il y a une seule équipe au Québec. C'est le Canadien. À l'époque, encore une fois, je retourne 25 ans en arrière, il y avait les Nordiques. Et les Nordiques, même à Montréal, généraient un intérêt considérable dans la presse et dans le Journal de Montréal, puis partout. Il y en avait un paquet d'articles sur les Nordiques. Ça faisait partie de notre scène sportive. Et à Québec, ben, on parlait beaucoup du Canadien aussi. Alors, il y avait plus de diversité. Mais aujourd'hui, on est tellement axé Canadien, Canadien, Canadien. C'est vraiment incroyable. Au point où moi, je me demande des fois, tu sais, pense à ça, là, le retour des expos, disons que les expos reviennent, les expos 2.0, ça va leur prendre combien de temps avant de créer leur place, avant de retrouver la place qu'ils ont déjà eue, qu'ils avaient, disons, dans le milieu des années 80, dans notre couverture sportive en général? Moi, je pense que ça ne sera pas automatique.
Ah oui, moi, je vois que ça peut être pas très long, honnêtement.
Ben,
j'ai l'impression qu'il y a un vide qui est comblé présentement par l'absence, en fait, par la non-performance et de l'impact, par contre, qui s'est replacé dernièrement, et des Alouettes. Mais ce vide-là ne manque juste le goût d'être comblé par la présence du baseball majeur, selon moi.
Je souhaite que tu aies raison. Je souhaite que tu aies raison, mais posons la question, là. Est-ce que ça va être automatique que les gens, de façon générale, vont s'intéresser autant à savoir qui va être le quatrième voltigeur des Expos, autant que qui va être le septième défenseur du Canadien?
Ouais, non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mm. Mais écoute, je pense que je préfère qu'on parle de baseball qu'on fasse le pied de grue dans le parking à Los Angeles.
Mais d'un autre côté, tu sais, je comprends, là, tu sais, que les médias, c'est une grosse histoire, Tavares, puis c'est assez, il y a aussi le phénomène, là, c'est assez intéressant, la façon dont ils font ça, là, Patrice Brisson et Tavares, il y a quelque chose d'assez unique qui frappe l'imagination. Ils sont assis là, puis ils attendent les offres. Ils feraient la même chose au téléphone, puis ça n'aurait pas le même impact.
Ben non, mais j'aime beaucoup le terme que tu as utilisé, les prétendants, j'aime ça.
C'est exactement ça,
des prétendants.
Exactement. Écoute, tu veux expliquer pourquoi t'es le meilleur choix.
Le temps file rapidement. Eugénie Bouchard, à une petite victoire du tableau principal, j'ai vu une entrevue qu'elle a faite, et là, je voyais les réponses, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est-tu moi qui... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et là, tu me dis, l'entrevue plutôt sèche. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, là?
Ben, c'est après son premier match de qualification à Wimbledon, qu'elle a remporté très facilement, une victoire convaincante, qui, théoriquement, aurait dû la mettre en forme et de bonne humeur. Elle a donné une entrevue sur le terrain, là, à la télévision, et elle a répondu très, très sèchement aux questions, quatre questions, puis des réponses courtes. T'sais, on le sait, là, on connaît ça, quand un athlète ou une athlète n'a pas le goût de répondre aux questions, là, ben c'est ça. Et ça a un petit peu mal passé en Angleterre. Il y a eu des articles dans les journaux, selon ce que je voyais, puis tout le monde se disait, hey, c'est quoi ça? Et donc, ça, pour elle, là, tu te demandes un peu pourquoi exactement elle a fait ça. Elle vient de remporter un beau match. Elle a toujours dit que Wimbledon était son tournoi préféré. Bon, c'est sûr que là, c'est certainement émotivement assez difficile, parce qu'on sait qu'elle a déjà été finaliste là-bas il y a tout de même pas trop d'années, puis là, elle doit passer par les qualifications. Elle n'a pas eu d'invitation des organisateurs. Elle aurait sans doute aimé ça en avoir une. Et là, elle doit passer par les qualifs. Alors, peut-être que, tu sais, c'est pas optimal son état d'esprit. Maintenant, si elle réussit à gagner son prochain match, là, elle va avoir accès au tableau principal. Sauf que son dernier match va être le plus difficile des trois. Elle affronte une des favorites, sinon la favorite, en tout cas, une des deux, je pense, du tournoi des qualifications. Alors, ça sera pas évident pour elle. Mais c'est sûr que si elle gagnait, ben là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'elle jouerait beaucoup de matchs. Elle aurait joué trois matchs en qualif cette semaine, plus la première ronde, très certainement. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle, ce qu'il faut qu'il lui arrive, Eugénie Bouchard, c'est de jouer. Il faut qu'elle joue plus souvent. Là. Elle est éliminée tellement rapidement. Elle manque de cette compétition-là. Puis on le sait que les victoires, c'est ça qui crée la confiance. Alors, ça pouvait bâtir un petit air d'aller. Peut-être qu'elle pourrait donner un élan à sa deuxième moitié de saison. À tout le moins, il faut le souhaiter.
On se croise les doigts. Philippe Quentin, merci d'avoir été avec nous.
Salut, Jérémy.
Merci, Philippe Quentin, qui nous parlait, entre autres, de la Coupe du monde de soccer. Ben justement, faites vos bagages parce qu'au retour, direction la Russie, on en parle avec Arcadio Marcuzzi.